pour vous dire que ce qui vous attend, c'est, ça peut être à la fois quelque chose de, ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital! Protéger le climat et pas le capital!
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, bonsoir, c'est les Régors. Chaque semaine, sur l'écho du Garrigue à Montpellier, Canal Sud à Toulouse et bien évidemment Radio Primitive sur Reims où cette émission est réalisée. Les Régors, une parole anarchiste communiste.
Vous allez entendre un montage de la réunion publique qui a eu lieu à La Parole Errante le mercredi 6 novembre dernier, avec Salah Hamouri, avocat franco-palestinien, Souach Béchara, combattante libanaise, et la présence également du comité de libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Je vais dire que je suis très honorée et très fière que nous ayons réussi à organiser cette soirée par la présence de Souach Béchara, Salah Hamouri et du comité pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah.
Aujourd'hui, on a organisé cet événement parce que c'est important pour nous de parler de ce qui se passe en Palestine et au Liban et de penser ces deux choses en commun. Aujourd'hui, on est donc à Urgence Palestine 20e, la campagne unitaire pour la libération de Georges Abdallah, Urgence Liban-Palestine et Sami Doun, organisateur et organisatrice de cet événement. On a plusieurs intervenants et intervenantes. Ça va être divisé en trois parties. Au départ, les interventions. Ensuite, ça va être ouvert au débat. On voudrait remercier toutes les organisations donc, qui tiennent des tables à côté. Et on remercie beaucoup, beaucoup la Parole Errante pour la tenue de cet événement. Et je vous signale juste qu'il y a Radio FPP qui vont rediffuser, si j'ai bien compris, des parties des interventions. On va commencer par Souach Béchara.
Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je me présente très brièvement. Je m'appelle Souach Béchara. J'étais dans la résistance armée contre l'occupation israélienne du Liban, qui était occupé de 1982. Je mets ça entre parenthèses. Hein. Après, je veux revenir sur notre histoire avec Israël, que j'étais dans la résistance armée et j'ai mené une opération contre le chef de l'armée supplétive israélienne qui a donné finalement à une arrestation, je ne sais pas pourquoi, mais voilà, ils m'ont arrêté. Et je suis restée, disons, en détention dans un camp qui s'appelle le camp de Khiyam, qui était un non-lieu, on peut dire, parce qu'il n'y avait aucun lien avec tous ceux qui ont été arrêtés. Les parents ne savaient pas s'ils sont vivants ou bien ils sont morts ou bien ils étaient arrêtés ou pas arrêtés. Et en 1998, j'ai été libérée. Donc, je suis invitée ici, pas parce que je suis une politologue et je ne suis pas historienne, non plus. Mais ce que je veux raconter, c'est un vécu, je pense qu'il y a beaucoup de Libanais au moins qui sont là. Peut-être ça va leur parler. Et s'ils ne venaient pas de la région de laquelle, ou bien à travers laquelle je veux partir dans la description de cette histoire, ils vont apprendre quelque chose. Je viens d'un village qui s'appelle Dermimas. C'est un village très très petit, mais qui est à 5 km de ce qui est devenu la frontière ou pseudo-frontière que les Libanais ont reconnue comme frontière avec Israël, mais Israël continue depuis 1948 à penser cette frontière. Ce village, il y avait mes grands-parents, c'était le lieu où on se retrouvait avec toute la famille, les cousins, les cousines. Mais depuis cette naissance, ça a été accompagné par des histoires et par un bruit. Ce bruit, c'était les avions. On ne sait pas d'où venaient ces avions qui brisaient le mur du son, qui sont devenus actuellement encore plus forts, encore plus violent. Avant, ces avions, quand ils traversaient notre ciel, vraiment, ça faisait un bruit, mais ça ne détruit pas des maisons. Et actuellement, ce bruit s'est amplifié par d'autres machines, d'autres appareils, comme les drones. Donc c'est dans ce village où j'ai grandi aussi avec ces avions, mais on ne savait pas c'est quoi, c'est Israël. Dans notre sud libanais, il y a ma grand-mère qui va lâcher une insulte à droite, à gauche. « Ilan Abou Hon » On va rester sur des insultes un peu très gentilles. Donc, et avec cette insulte, les Israéliens, ils ne nous lâchent pas. Ils ne nous ont jamais lâchés. Et effectivement, le sud du Liban a toute une histoire. Et cette histoire est liée à l'histoire de la Palestine. Cette histoire, elle est liée à la Nakba. Elle est liée à la création par la communauté internationale, au nom du droit international, d'un État qui s'appelle Israël. Israël a déclaré sa création en 1948. Cette création, à part les centaines de milliers de réfugiés des Palestiniens éparpillés entre le Liban, la Jordanie, la Syrie et l'Égypte, il y a eu des massacres, des destructions, des villages, bien sûr en Palestine, mais aussi au Liban. À Houla, j'aime bien vraiment revenir sur, on appelle ça massacre, mais je ne sais pas si on reste, il faut trouver d'autres termes maintenant. À Houla, en 1949, les Israéliens, la Haganah, est entrée arrêter des femmes, des hommes, des enfants, enfermés dans trois maisons, tirés dessus, première vague, deuxième vague, vérifier qui est encore vivant, l'achever, troisième vague, détruire par explosif les maisons. 14 villages ont été occupés au sud du Liban après la création d'Israël, dont Houla, Merkaba, Taïbé, Derserien, et j'en passe. Ils se sont retirés, les Israéliens, suite à un accord, l'accord d'armistice, qui était le 23 mai en 1949, et qui s'est soldé par un retrait israélien sur ce qu'ils ont appelé la ligne bleue. Et depuis, on a commencé notre, on peut dire notre enfer, avec le sionisme, la création d'Israël et parallèlement avec le vécu des Palestiniens de près au Liban, dans les camps du Liban et encore plus près en Palestine. Gaza, Cisjordanie et ce qu'on appelle les Palestiniens de 48. Et malgré tout ça, moi qui ai né en 1967, ce sont des histoires, des bribes d'histoire qui accompagnent bien sûr à chaque fois cette insulte de ma grand-mère. Et on continue. La guerre civile commence en 1975. Pour moi encore, le Palestinien, c'est quoi ce Palestinien? Qu'est-ce qu'il veut du Liban? C'est comme s'il est venu parce qu'il veut faire du tourisme. Mais ce n'est pas le cas. Et ce n'était pas clair. Hein. Et le Liban a tout fait pour qu'on ne parle pas de la Palestine. C'est-à-dire, moi qui ai fait mes études, tout ce qui est lié à la Palestine, on ne l'apprend pas à l'école. C'était interdit de l'enseigner à l'école publique, hein, je parle. Notre histoire continue, mon histoire, avec cet Israël qui reste très très flou, lié avec ce bruit, avec ces villages, le massacre de Houla. Il y a des terrains qui nous appartiennent, mais Israël les a pris. On a le Motulla qui est tout près aussi, on voit Maskafam. Ouais, tous ces noms, hein, on les entend maintenant avec tout ce qui se passe. Glilot, ils ont judaïsé pas mal de choses parce que c'est Raunin, un des sept villages qui était occupé en 1948. Et on arrive à 1978, deuxième invasion israélienne. Et là, les Israéliens, ils étaient fâchés. Parce que il y a des Palestiniens qui sont au Liban, mais ce sont les Israéliens qui les ont expulsés au Liban, voire déportés. Donc, il ne faut pas qu'ils restent à la frontière israélienne. Et là, on mène une occupation, la première invasion israélienne, pour créer une zone de sécurité. Et là, Israël va occuper une partie du sud du Liban, jusqu'à l'Étané, et mon village fait partie de cette zone occupée. Et depuis, je n'ai pas pu revenir. Je n'ai pas pu revenir au sud du Liban. Je ne sais pas si vous vous rappelez, il y avait la guerre froide entre les Américains. Il y avait encore l'ex-Union soviétique. Donc, il y avait les communistes. Et les communistes font peur. Et mon père, il était communiste. Donc, les Israéliens ne donnaient pas l'autorisation aux communistes de revenir dans leur village. Et on faisait partie de ces familles qui ont quitté le sud, qui étaient obligées de quitter le sud du Liban et de se réfugier à Beyrouth, à Nabatieh, au nord, à la montagne, dans la Bekaa. Et il y a la banlieue sud de Beyrouth, ça commence à grandir avec cette migration de 1978. On continue. Donc, première invasion israélienne, les Israéliens, ils sont pas contents de ces Palestiniens qui sont à leur frontière. Il faut les pousser encore plus loin. Encore plus loin, ok. 1982, là, il faut pas qu'ils restent au Liban. Et là, on assiste, deuxième invasion israélienne, aussi pour les Israéliens, parce qu'ils sont pas tranquilles dans leur jacuzzi. J'aime bien le terme jacuzzi. Je trouve que ça leur convient très bien. Et ils voulaient chasser les Palestiniens. Donc, ils occupent en 1982 deuxième capitale du monde arabe, Beyrouth. Ils arrivent à avoir un accord international quand même. Hein. C'est avec l'OTAN, avec tout le monde dans le bain, les Palestiniens, toute la milice palestinienne avec les armes, devraient quitter le Liban. Ils quittent le Liban. Les femmes, les enfants restent. Et là, le 16 septembre, après cet accord international, après ce droit international et tous ces navires, ben on assiste au massacre de Sabra et Shatila, qui est fait, comme par hasard, trois vagues. Ça me rappelle ce qui s'est passé à Houla aussi. Les femmes, les enfants, les Israéliens les massacrent. Ils avaient une milice, la milice de Saad Haddad. Les forces libanaises vérifient, ça c'est la deuxième vague, vérifient qui est encore vivant suite au massacre. Ils les achèvent. Et troisième chose, faire sauter ce qu'ils arrivent à faire sauter. Donc, le Liban, face à cette occupation israélienne, et c'est pour moi, pour la première fois, je réalise que oui, mon village était occupé depuis 1978. Ce n'est pas depuis 1982. Et c'est à partir de là, grâce à la création du Front de la Résistance Nationale Libanaise, je me suis dit, on n'a qu'une seule voie. Et cette voie, c'est résister. Face à cette occupation israélienne, on va résister. Et la résistance commence. Suite à cette résistance, Israël commence à se retirer de Beyrouth, de Saïda, de Tyr, et revient à la zone de ce qu'elle a appelé la zone de sécurité. Il faut savoir qu'entre-temps, quand même, ils ont créé un pseudo-État avec d'autres pièces d'identité. Ils ont essayé de créer, il y avait un projet de colonie, naissance des premières colonies à l'intérieur de cette zone de sécurité. Et c'est grâce à la résistance et au front de la résistance nationale libanaise, et j'aimerais bien rendre un hommage aussi à tous les martyrs, dont Georges Nasrallah, ce projet est tombé dans l'eau. Mais je pense que c'était juste un projet tombé dans l'eau face à la résistance, mais jamais dans le projet colonial israélien. L'intifada. Intifada des pierres. Tous face à une armée jamais vue avec leur corps. En Palestine même, pour contrer cette occupation. Malheureusement, cette intifada, elle s'est soldée par un accord, l'accord de Oslo. 1988, j'ai mené mon opération, arrêter, disons, retrouver le Liban 1998 et suite à la résistance qui, entre-temps, au début, il y avait le Front de la Résistance Nationale Libanaise. Avec le temps, il y avait d'autres partis politiques qui ont rejoint cette résistance et je tiens à citer Hezbollah. Et je tiens à citer une idée ou bien une phrase que Sayyid Hassan Nasrallah l'a dit. S'il n'y avait pas l'occupation israélienne de 1982, Hezbollah n'aurait jamais pu exister. Cette résistance, ils sont devenus en première ligne face à cette occupation israélienne, mais aussi le sud Liban, de plus en plus, il devient et il continue à dire non à l'occupation israélienne. En Israël même, la moitié des soldats israéliens, ils ne comprennent plus qu'est-ce qu'on va faire au Liban. Pourquoi je veux résister au Liban? Pourquoi je veux prendre les armes au Liban? Ils voient le projet sioniste seulement en Palestine. Mais ils ne le voyaient pas. Ils voyaient le projet sioniste à Gaza. Ils le voyaient en Cisjordanie. Ils le voyaient en 1948. Les Palestiniens, on peut se débarrasser d'eux. On ne les veut pas du tout ici. Mais ils ne voyaient pas encore dans la politique systématique du sionisme, ils ne voyaient pas pourquoi vous voulez qu'on reste au sud du Liban. Et suite à cette résistance, effectivement, on arrive à un moment donné, Israël n'arrive plus à faire face, choisit quand même de consolider son jacuzzi. Et tous les touristes qui viennent, et on peut faire de l'économie, et on peut faire un développement, et on devient un parc d'attractions pour le monde entier, avec symbole. Nous sommes la démocratie. Dans toute cette région, il y a une démocratie qui existe, c'est Israël. Du coup, il y a le retrait israélien, mais quand même, c'est en se retirant, ils ont cru que l'armée supplétive israélienne, il va tenir comme c'était leur mission au sud du Liban qui était occupé et qui va faire face à cette résistance. Mais ça n'a pas joué, ils sont partis, ils sont arrivés même à la frontière israélienne avant que les Israéliens sont arrivés à la frontière israélienne et le Liban, le sud Liban était libéré l'an 2000. C'était un moment très, très fort. Si je retiens de cette libération une leçon à garder, peut-être très, très clairement dans notre esprit, avec tout ce qui se passe actuellement, les cris en Palestine, les cris au Liban, les cris des murs et des corps sans âge, on n'a plus d'âge, face à ce projet colonial, impérial, économique, politique, on n'a qu'une seule chose, c'est résister en tant que Libanais, en tant que Palestinien, et à tous les pays qui ont créé ce droit international. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont créé, ce droit international. Je me demande maintenant s'ils l'ont créé pour eux ou bien pour nous. À tous ces pays qui ont créé les Nations Unies, on leur dit, veillez à ce que ce droit international ne soit pas deux poids, deux mesures. Et à nous, en tant que Palestiniens, à nous que Libanais, on n'a qu'une seule voix, c'est la voix de la résistance. Merci.
لا تحزن معك الله يا رمشا لا تحزن بعون الله يهون الصاب لا تحزن معك الله يا رمشا لا تحزن بعون الله يهون الصاب ما تبكي يا على حالي حقك ترفعي راسك بطالي ما تبكي يا فلسطين على حالي والله ارفعي راسك بطالك وخلي الجبن يشوف أطفالك ما سلموا للخوف بعز الرعب بعز الرعب
بعز الرعب
لا تحزن معاك الله يا أعظم شعب
يا أعظم شعب
لا لا تحزن بعون الله يهون الصعب
Bonsoir à toutes et à tous. Merci pour tout d'abord pour l'invitation. Moi je me présente, je suis Salah Hamouri, je suis palestinien, franco-palestinien. Je suis né à Jérusalem, grandi à Jérusalem, ma mère est française. Mon père est palestinien, c'est par là, ça part que je suis français, j'ai les papiers français. J'ai toujours vécu à Jérusalem. Avec le déclenchement de la deuxième intifada, j'étais de cette génération qui a participé à la deuxième intifada. J'ai passé en total 10 ans dans les prisons israéliennes. Et au final, depuis décembre 2022, j'étais déporté vers la France. Mes papiers de Jérusalem, je vais revenir sur la question de Jérusalem et la fragmentation du peuple palestinien en morceaux. J'étais déporté en France par force et depuis, je n'ai pas le droit de retourner à Jérusalem. C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle dans un contexte politique assez spécial que peut-être qu'on n'a jamais vécu. Si on voit l'image, les images et le contexte politique aujourd'hui, ça ne nous rappelle que de la Nakba. Il n'y a pas entre la Nakba et aujourd'hui, après 76 ans d'occupation, on peut le dire clairement que c'est une deuxième Nakba que le peuple palestinien et la région elle vit. Ils essayent de nous faire comprendre que voilà, tout a commencé le 7 octobre, comme s'il n'y avait rien avant le 7 octobre. Je ne veux pas revenir sur les aspects historiques. Moi, je pense que le peuple palestinien, il y a trois dates assez marquantes dans son histoire. L'occupation de 48, qui a créé l'occupation israélienne, qui était le début de la question des réfugiés palestiniens. Suite 67, la deuxième partie de la Palestine occupée, le reste, Cisjordanie et la bande de Gaza. Et moi, j'ai une troisième date que je pense qu'on vit ses conséquences jusqu'à aujourd'hui. Et je pense que c'est une autre catastrophe que les Palestiniens l'ont signée avec leur propre main. C'était les accords d'Oslo. Les accords d'Oslo que, à cause d'un certain dirigeant palestinien qu'ils ont reconnu l'État d'Israël et qu'ils ont accepté de diviser la Palestine en deux. Suite à ces accords, 132 pays ont reconnu Israël, parmi eux la Chine par exemple. Et c'est devenu comme une réalité de dire que voilà, il y a deux pays, deux peuples qui vivent côte à côte en paix. Je pars dans ce contexte-là parce que l'idée de faire disparaître le peuple palestinien, on la voit directement aujourd'hui, on la voit clairement. Peut-être que dans l'histoire, on n'avait pas assez d'images, on n'avait pas assez vu la disparition ou l'essai de faire disparaître le peuple palestinien. On le voit aujourd'hui dans ce génocide en cours. En fait, tout a commencé même avant 1948. Mais quand on arrive à la question d'Oslo, pourquoi j'insiste sur là-dessus ? Parce que voilà, il y avait cet essai de fragmenter le peuple palestinien au début, de dire que voilà, les Palestiniens qui sont restés entre 48 et 67, c'est devenu des Israéliens, ils sont des citoyens israéliens, même s'ils sont considérés des citoyens israéliens de deuxième ou troisième degré, mais ils sont devenus israéliens. Les Palestiniens de la Cisjordanie aussi, ils étaient fragmentés à cause des accords d'Oslo et même avant. Il y a ce statut spécial aussi avec l'accord de communauté internationale qui était donné aux Palestiniens de Jérusalem et aux Syriens du plateau du Golan occupé jusqu'à aujourd'hui. Ce statut, il s'appelle les résidents permanents. C'est des gens considérés comme ils vivent dans ces villes-là, à Jérusalem et au Golan, mais ils ne sont pas considérés comme citoyens. Ces gens-là ne profitent pas d'une citoyenneté. Ils n'ont pas un passeport ou une nationalité. T'es né, T'es un résident, mais t'as pas de nationalité. Les gens de Jérusalem, là où j'ai grandi, quand ils sont nés, ils sont ni la nationalité israélienne, ni la nationalité palestinienne. Moi, j'ai la nationalité française parce que ma mère est française, mais le reste et la majorité des gens-là sont pas, ils ont pas de nationalité. C'était le cas aussi des Palestiniens de le reste de la Cisjordanie et la bande de Gaza jusqu'à l'arrivée de l'autorité palestinienne où elle avait eu le droit de donner la nationalité palestinienne à ces gens qui habitent dans ces zones-là sous contrôle israélien. La fragmentation, elle s'est intensifiée à cause des accords d'Oslo. Avant, on parlait de deux morceaux. À cause des accords d'Oslo, la fragmentation, elle s'est intensifiée. Oslo, elle a créé 5 zones du peuple palestinien séparées. Une zone en Cisjordanie, une zone à Jérusalem, des Palestiniens enfermés à Gaza, les Palestiniens de 1948, qu'ils étaient totalement oubliés à cause de cet accord-là, et les réfugiés palestiniens à l'extérieur, qu'on n'en parle plus. Ça veut dire, le plan américain-israélien occidental derrière cet accord, c'était la disparition totale du peuple palestinien à long terme. Parce que cette fragmentation avec l'isolation de chaque morceau tout seul à long terme, ça veut dire que tu développes ton identité, tu développes tout seul l'économie, la culture. Bon. Suite à ces accords-là, ils ont échoué, évidemment, en 2000, il y avait le déclenchement de la deuxième intifada, où malheureusement, nous, les Palestiniens, on n'était pas prêts. À cause des 8 ans, entre guillemets, de processus de paix, on est arrivé à un déclenchement populaire où ni les partis politiques, ni la population, elle était prête pour ce déclenchement. Bon, on est rentré dedans quand même, elle est restée 5 ans. 5 ans après, il y avait cette cessez-le-feu qui a été signé après la mort d'Arafat par Abou Mazen et son équipe politique, qui a conduit à l'arrivée de deux chefs de l'époque, un au Liban et un en Palestine. Seniora au Liban et Salem Fayyad en Palestine, deux dirigeants qui étaient imposés par la Banque mondiale pour imposer une économie néolibérale dans des zones en Palestine. Imaginons-nous un peuple sous occupation qui doit gérer une économie néolibérale sous occupation. Et le Liban, le plan, il était aussi prêt, après les années 2000, voir comment on impose ce néolibéralisme pour contrôler et détruire le pays. 2006, une date très importante pour les Palestiniens, les Américains, les Occidents, ils imposent les élections. Donc voilà, c'est le temps de la corruption d'Arafat est terminé. On est là à nouveau pour recréer une autorité palestinienne sans corruption, avec des bases démocratiques. Ils imposent les élections, le peuple palestinien, il accepte pas. Bon, ils ont fait en Cisjordanie et Jérusalem. La surprise, Hamas, il est majorité à l'Assemblée nationale, mais majorité entière. Voilà. Les Européens, les Américains, les Israéliens derrière, ils savaient pas quoi faire. Il fallait punir tout un peuple, poser un embargo économique sur l'autorité palestinienne, travailler sur la question d'affamer les gens pour qu'ils se retournent contre les gens élus. Classique comme les autres pays. D'autres. On ne peut pas ignorer l'aspect interne. Il y a certains Palestiniens aussi qui ont collaboré avec l'intention américaine et israélienne, qui a conduit directement à la division en 2007 entre les deux grands partis, le Fatah et le Hamas. Tout ça se passe en arrivant jusqu'à le printemps arabe, une date très importante, pas que pour la Palestine, mais pour toute la région. Le printemps arabe qui a commencé comme une révolution populaire pour changer ses régimes et pour se débarrasser des dictateurs. Malheureusement, avec l'appui des Américains, des forces, avec la France et d'autres pays, avec la participation directe des régimes réactionnaires arabes comme les Émirats Unis, l'Arabie Saoudite, le Bahreïn et d'autres, ce printemps arabe se tournait pour une catastrophe arabe. Les pays où ils ont pu changer les régimes, comme l'Égypte, ils l'ont fait. Les pays où ce n'était pas possible, où ce n'était pas assez contrôlé, il fallait les détruire. La Libye, elle était détruite. La Syrie, elle était détruite. L'Irak, elle était détruite. Le Yémen, elle était détruite. Le reste, plus ou moins, c'était des pays où ils ont pu réinstaller les régimes pour servir aux intérêts américains. Après le contrôle du printemps arabe et les changements, il fallait passer par une époque aussi très dangereuse pour nous, pour la cause palestinienne, les accords d'Abraham. Les accords d'Abraham, comment rendre Israël un État normal dans la région sans rendre aucun droit des Palestiniens, et à l'inverse, comment créer cette collaboration ouverte. Bon, avant, peut-être dans les années 60-70, ça se passait sous la table entre des régimes réactionnaires et les régimes sionistes. Aujourd'hui, c'était au-delà, c'était de voir comment créer cette alliance israélienne, de l'occupant israélien avec des régimes arabes pour bloquer l'arrivée des Iraniens, entre guillemets, dans la région, pour voir comment finir avec la question du Hezbollah au sud du Liban, avec la question du Hamas à Gaza, et voir comment recontrôler la région. C'était ça la conséquence finale du printemps arabe. Les Américains, je pense, avec l'appui de la création d'Israël, les forces occidentales, ils avaient besoin de cette base armée avancée dans la région pour contrôler toute la région et garder la richesse de cette région pour les Américains et pour les forces impérialistes. Aujourd'hui, on en est où ? 13 mois après ce génocide en cours, après le 7 octobre, la région qui est totalement déstabilisée, et je ne pense pas que les Américains ils avaient cet intérêt de la déstabilisation de la région, parce que les Américains ils avaient leurs intérêts à long terme, après les accords d'Abraham. Il y a plein d'intérêts, mais si on imagine un ou deux de ces intérêts, il y avait par exemple, entre 2030 et 2035, il fallait finir et ouvrir le nouveau canal entre l'Arabie Saoudite et Israël, qui s'appelle le canal de Ben-Gourion. Le canal Ben-Gourion qui va remplacer le canal de Suez, malgré qu'on sait bien le rôle du régime égyptien aujourd'hui, mais il fallait ce canal stratégique pour les Américains entre l'Arabie Saoudite et Israël. Ils ont développé, ça fait des années et des années qu'ils sont en train de développer le port de Haïfa et la ville de Haïfa, et surtout le port et les zones du port de Haïfa pour que toute la richesse de la région, tout ce qui est pétrole et compagnie qui arrive par l'Arabie Saoudite, qui arrive de la région, il finit à Haïfa, et que Haïfa aussi il devient une ville stratégique américaine et israélienne pour exporter les trésors de la région. Ce génocide en cours, il vient aujourd'hui dans le contexte de redéfinir la région de nouveau. Netanyahou, Garland et d'autres, ils l'ont déclaré depuis longtemps, ils l'ont redit il y a quelques jours, que voilà, ces génocides en cours contre les Palestiniens, la guerre contre les Libanais qui peuvent se développer aussi pour un génocide, il est là pour faire naître un nouveau Proche-Orient. Un nouveau Proche-Orient, qu'ils ont essayé de le faire naître en 2006, et Condoleezza Rice l'a exprimé dans les mêmes mots, que voilà, la guerre de 2006 contre le Liban, elle est pour changer tout le Proche-Orient, et aujourd'hui, il parle du même intérêt, c'est comment redéfinir la région, redéfinir le Proche-Orient. Je pense que les Israéliens et les Américains, ils vont continuer ce qu'ils ont commencé. C'est par rapport à Gaza, le projet est clair, que voilà, créer une zone de séparation dans le nord, réinstaller les colonies, détruire totalement la Cisjordanie et pourquoi pas un deuxième transfert des Palestiniens de Cisjordanie, et ça c'était dit. Le Liban, ils veulent un Liban soumis aux forces américaines et aux forces israéliennes, même s'il n'y a pas un contrôle direct de l'armée israélienne où ils sont présents, mais ils veulent un pays soumis comme l'Égypte et comme la Jordanie et d'autres. Aujourd'hui, je pense qu'on est allé dans une guerre d'usure à long terme. Les forces de la résistance, ils ont déclaré leur position assez tôt et assez claire. Il n'y aura pas un détachement des fronts entre le Liban et Gaza et dans toutes les forces de la région. Ça, c'était déjà assez dit assez tôt. Moi, je pense que voilà, il y a trois aspects qu'il faut les maintenir et les renforcer sur la question de la résistance. On a premièrement la question de la résistance sur place. On voit bien que la résistance sur place, elle continue de fonctionner. Deuxièmement, c'est la question de la résilience des gens qui sont sur place. On voit les réfugiés aujourd'hui, malheureusement libanais, qui sont réfugiés, mais malgré, tu vois, le soutien de la population pour la résistance. Et la troisième chose, c'est notre travail, c'est la question de la solidarité internationale. On doit savoir que nous aussi, on a des missions, on est parti de cette idée de résistance, on n'est pas sur place, mais nous, on a des missions assez fortes et assez importantes à faire, ici en France et ailleurs, et aussi c'est grâce à nous et à ce qui se passe sur place, on a pu ramener la Palestine comme première priorité politique mondiale. Moi je pense que notre rôle, il faut être convaincu que le rôle qu'on joue ici, c'est un rôle très important.
بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يتسلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يتسلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل خلي نحكي مادام القلب مازال يتكلم مادام الشعب يهيج برئيس البلاد واليوم نتكلم الحرب بدات مادام مازلت نشوف الظلم مادام الدولة تسقي في الشعب في كاس السم هاك تشوف كلب المواطن تعبى من العذاب كل فلوس والمناصب طيشونا كل الكلاب لعبوا علينا علمونا تونس الخضرة بلاد الخير سرقتونا يا ولد خليتوا الطبة فينا تحير علمونا من الصغار بالسياسة راي خاطينا سقتونا بالقوانين بعد في الاخر بسقوا علينا حرام عليكم صنعتوا شباب ماشي فيرلما جرت البطالة ضربنا فيريس اسمه مالات مونتال بليتوا القصور بدمنا بعرقنا لبستوا الحرير هذا يليوم مش صاير زعمه قدوش باش يصير يسي مسكوتنا خاطر سكوتنا ما ينفعش خلونا في طريق فلامي يهز وما يرجعش تونس بلادنا بالسياسة ولا بالدم تونس بلادنا ورجالها جم يتسلم تونس بلادنا اللي يدفل يد الناس الكل تونس بلادنا واليوم لازم نلقاو الحل
Je parle au nom de la campagne unitaire pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah. Je vais commencer par une de ses citations. Elle a été dite le 26 octobre dernier, dans sa dernière déclaration, lorsque nous étions à Lannemezan. Il commençait par cela. « Vous savoir rassembler aujourd'hui face à ces barbelés et autres miradors, à quelques mètres de ma cellule, me remplit de force et me réchauffe le cœur. » Je crois que cette réunion de ce soir provoquerait exactement le même sentiment chez lui, de nous voir tous réunis aujourd'hui et d'évoquer sa cause et son combat. Alors le titre de la réunion est Palestine-Liban, un front commun, et je pense qu'effectivement c'était important d'évoquer Georges Abdallah parce qu'en lui-même, peut-être, il symbolise par lui-même, par son parcours, par son identité politique aussi, ce front commun entre la Palestine et le Liban. C'est un combattant, je le redis, communiste, libanais, il se dirait lui peut-être tout simplement arabe. C'est un révolutionnaire libanais qui a donc consacré toute sa vie, toute une vie de combat à la lutte de libération nationale du peuple palestinien et évidemment aussi du peuple libanais. Cela a commencé peut-être pour lui très tôt dans ce Liban des années 70, où c'était un Liban, on ne l'a pas dit, mais c'était un Liban, je crois, dans une crise économique très très forte, avec des inégalités sociales extrêmement importantes, et où tout un engagement communiste et anticapitaliste s'est vu naître pour Georges Abdallah, mais également pour toute la génération de son époque. L'entité sioniste, c'est le bras organique des impérialistes dans la région, en Palestine, au Liban et pour tout le monde arabe. Et la guerre des six jours en 67 a pu mettre en exergue peut-être principalement le rôle de l'impérialisme américain et de l'OTAN dans cette victoire de l'entité sioniste. Finalement, en 69, il va s'engager dans une organisation qui est le Front de Libération pour la Palestine, le FPLP. Et il est important peut-être de lire ce que disait le Congrès en février 69 de cette organisation politique. Voilà ce qui était indiqué. La stratégie de la lutte de libération de la Palestine nécessite la mobilisation et la concentration de toutes les forces révolutionnaires dans les pays arabes et en premier lieu de ceux qui entourent Israël.
d'où l'insistance du Front populaire sur les liens existants entre la question palestinienne et la question arabe, et sur la nécessité de l'union entre la révolution palestinienne et la révolution arabe. Ce front commun entre le Liban et la Palestine, eh bien, il va se retrouver également à travers une autre organisation dont il va être l'un des fondateurs, la fraction armée révolutionnaire libanaise. Il est intéressant de savoir que par cette organisation, l'un des mots d'ordre, et vous le savez peut-être, était frapper l'ennemi partout où il se trouve, et notamment au cœur même des centres impérialistes. Ça expliquera ensuite les actions, non pas de terrorisme, mais de résistance qui vont avoir été menées. Alors, à la création des FARL, disons aussi ce qui était indiqué dans un de leurs communiqués. Depuis 7 ans, le peuple libanais subit la guerre. Depuis 7 ans, l'impérialisme détruit tout ce qui est progressiste au Liban. C'est notre droit de nous défendre et d'attaquer l'impérialisme partout où il sévit, et en particulier là où il bénéficie du soutien politique du gouvernement en place. Alors, vous le voyez, à travers cet engagement de Georges Abdallah, aussi bien au sein du FPLP ou des FARL, cette liaison, ce front commun entre Palestine et Liban était déjà très nette. C'est toute une vie de combat, Georges Abdallah. C'est 40 ans de prison, mais toute une vie de combat, et toute une vie de combat au service de la résistance du peuple palestinien. L'ensemble de ces déclarations ne cesse de le signaler. Il dit par exemple, en 1948, la création de l'entité sioniste sur les ruines de villes et de villages palestiniens aurait pu mettre fin à l'histoire de la Palestine et du peuple palestinien s'il n'y avait pas cette indomptable résistance. Il a aussi écrit dernièrement quelque chose qui est très juste à mon sens. Il dit « Gaza ne portera jamais le drapeau blanc de la capitulation ». Ni les sionistes, ni aucune autre criminelle force ne réussiront jamais à briser la volonté de la résistance à Gaza. Mais on se doit aussi, finalement, d'arracher l'un de ces combattants historiques qui est Georges Abdallah, incarcéré par notre propre impérialisme français, ici en France, dans le sud de la France, je le rappelle, à Lannemezan. Cela fait donc maintenant 40 ans. Il est libérable depuis 1999. Deux décisions de justice ont été accordées en 2003-2013, indiquant qu'il devait être libre. Nous attendons la décision du 15 novembre prochain. Vous savez qu'il a déposé en juin dernier une 10e demande de libération conditionnelle. Les juges d'application des peines se sont réunis le 7 octobre, comme par hasard, à Lannemezan pour examiner cette demande, et nous aurons la décision le 15 novembre pour savoir s'il est libéré ou pas. Le 15 novembre prochain, je vous l'ai dit, il y aura cette décision judiciaire. Eh bien, nous vous appelons à agir aussi la veille, le 14 novembre, partout en France. La première manifestation de Lannemezan en 2010 regroupait une centaine de soutiens. Le 26 octobre dernier, nous étions plus de 4000 présents. Le 24 octobre dernier, c'était la date anniversaire, entre guillemets, de l'arrestation de Georges Abdallah. Nous réitérons cet appel de mobilisation. Ce sera le 14 novembre prochain, partout en France et à Paris. À Saint-Denis, ville ô combien symbolique, le 14 novembre, Urgence Palestine et le Comité Palestine de Saint-Denis appelleront à un rassemblement devant pour scander notre soutien inconditionnel à la résistance du peuple palestinien, à la résistance du peuple libanais et à la résistance de notre camarade Georges Ibrahim Abdallah.
Toute résistance palestinienne, historiquement, elle était accusée d'être terroriste. N'importe quel Palestinien au mouvement de résistance, que ce soit au Liban, que ce soit en Palestine, qui va résister contre l'occupant et les intérêts impérialistes dans la région, il va être accusé de terrorisme. que ce soit la gauche des années 70, que ce soit le Fatah laïque qui a été accusé, que ce soit le FDLP, que n'importe quel mouvement de résistance qui va être contradictoire au projet américain dans la région, il va être accusé d'être terroriste. La même chose pour tout mouvement de résistance, que ce soit en Algérie, au Vietnam, même en France dans les années pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est la logique des forces occupantes. Deuxième chose, juste un dernier mot. Moi, je pense que la France, elle continue de considérer que le Liban, c'est sa petite colonie, qu'elle doit continuer de la gérer. Bien sûr, avec l'accord des Américains, je ne pense pas qu'il y aura une contradiction entre forces impérialistes dans la région. On a vu, il y a 2 semaines, le sommet à Paris pour pousser à l'implication des 1701, juste pour vider le sud du Liban de résistants et voilà, regarantir les frontières. C'est clair que la France, elle a un intérêt immense au Liban, surtout économique. Il y a le nouveau piste du gaz découvert en face du sud de Liban. Pour que Total, ça fait des années que le ministère des Affaires étrangères négocie au nom de Total pour que ce soit Total qui tient la piste de gaz pour des dizaines d'années. Un sud de Liban qui n'est pas soumis aux forces israéliennes et un pays faible, la France ne peut pas bénéficier du gaz libanais à long terme. Ça, c'est un des intérêts. Bien sûr, il y a d'autres intérêts géopolitiques, mais ça, c'est juste un exemple pourquoi la France aussi, elle continue de pousser à l'application de 1701 ou n'importe quelle autre résolution internationale qui sert à l'intérêt d'Israéliens et des forces impérialistes.
J'ajoute juste un point. Je suis convaincue, si on revient sur la ligne, le fil rouge que j'ai présenté, Israël est un projet colonial par excellence, pas seulement en Palestine, mais aussi au Liban, au sud du Liban. Et les Israéliens, en 1949, quand ils se sont retirés des 14 villages, le retrait était suite à d'autres enjeux encore existants du droit international. Actuellement, les Israéliens, ils veulent redessiner des frontières à leur guise. Ils ont existé avec la force et je pense qu'ils peuvent, c'est ce qu'ils ont pensé et ils pensent, qu'ils peuvent imposer des nouvelles lignes bleues entre la Palestine, Israël et le Liban. La deuxième, par rapport à la question humanisation ou bien comment on arrive à reprendre ou bien à montrer ou bien à récupérer cette humanité qui font tout pour nous déshumaniser. Je ne sais pas qu'est-ce que je peux attendre des États qu'on a trouvé un moyen pour légitimer de bombarder des hôpitaux parce qu'il y a un qui est Hamas. Qu'est-ce que vous voulez qu'il soit dans le parti de quel parti? De Marine Le Pen? Il est en Palestine. Soit il est Hamas, soit il n'est pas Hamas. Mais il ne va pas être dans le Parti national ou bien l'UMP ou bien l'UDC. Il y a beaucoup de partis en Europe. Mais c'est sûr, ils ne vont pas être ça. Deuxième chose, c'est qu'on ne cherche pas à ce qu'eux, ils trouvent chez nous l'humanité. Moi, à mon avis, ils devraient eux-mêmes retrouver le sens de l'humanité et de leur humanité. Sur la question de l'unité libanaise, la question de la résistance, la division qui pourrait être, tout est possible. Hein. Au Liban, pas tous les Libanais, d'ailleurs, ils n'ont jamais été derrière tous la résistance. Je me rappelle qu'au front de la résistance nationale libanaise, on n'était pas des dizaines, des milliers, on était des milliers, hein, on ne dépasse pas.
ça fait partie hein, de cette de la configuration libanaise. Est-ce qu'on pourrait être tous à un moment donné derrière cette résistance? Je ne pense pas que tous les Libanais, du coup, ils vont être là, parce que historiquement parlant, bah, le Liban était divisé par rapport à la question de ce projet colonial. Que le Liban lui-même, hein, en tout cas, sa constitution était le fruit de cette France qui veille à notre existence et notre présence et qui a créé une constitution confessionnelle par excellence. Donc, même s'il n'y a pas l'unité, mais comme ça ne l'était pas avant 2000, mais ça nous a emmené à la libération du sud du Liban. Moi, à mon avis, la France, elle l'a perdu à partir, ça faisait longtemps, et je pense l'Europe complètement est en train de s'éteindre avec ce qui s'est passé en Ukraine. Donc, c'est très, très dur. Et je rappelle une chose, c'est que en France, ou n'importe quel pays, quel est l'intérêt de chaque pays? L'intérêt a complètement changé. Plus de justice sociale, plus d'égalité. On cherche la richesse des hommes qui arrivent au pouvoir. Et je pense que la France devrait revisiter ce qu'elle veut de cette France, ce qu'on veut de l'État, de n'importe quel État. Si c'est la richesse individuelle des politiciens ou bien la richesse de nos citoyens. Et cette richesse commence par préserver notre humanité. À mon avis, ça, c'est le mot d'ordre.
Moi, je terminerai aussi simplement, là encore, par une dernière citation. On n'a pas encore parlé de lui. Nelson Mandela, c'est l'oppresseur par ses méthodes qui désigne à la résistance les armes qu'elle doit utiliser. Donc aujourd'hui, par rapport aux armes de l'ennemi, solidarité, toute solidarité avec la résistance du Liban, de la Palestine. Et puis, dire aussi, parce que ça s'entend quand on milite pour la libération de Georges Ibrahim Abdallah, et même parfois au sein même de ceux qui sont dans le combat, cette idée qu'on n'arrivera pas à le sortir, peut-être même qu'il mourra en prison. Et même on entend dire parfois que s'il est en prison, bah c'est parce qu'il il le veut lui-même d'ailleurs. Hein. Il y est tellement bien. Alors non, restons sur un optimisme historique, pas seulement un optimisme historique, mais pour la résistance en Palestine, au Liban et pour Georges Abdallah, je crois que c'est avant tout une question existentielle. Il n'y a pas d'autre voie. Il faut résister, sinon c'est la mort. Et c'est par cette résistance qu'ils vivront, qu'ils vaincront et que nous ferons en sorte de les sortir de là pour la victoire ou la victoire. Merci à tous.
Attends, c'est ça peut être à la fois quelque chose de ça va être quelque chose de très dur, mais de très beau si vous le réussissez. La seule façon de le réussir, c'est que en fait vous êtes rentré en guerre aujourd'hui. C'est pas simplement une lutte, c'est la guerre. Ils vont essayer de vous faire croire que vous coûtez trop cher. On vous explique que si vous êtes dehors, c'est à cause du coût du travail. Quelle belle blague! Depuis quand les ouvriers coûtent de l'argent au patron?
Le problème, c'est qu'on a une politique qui est décalée sur ce qu'est la société réelle, quoi. Et enfin, la société de la rue, la société du quartier, la société de la ville. Ouais, c'est sûr, j'ai fait passer des gens, mais moi, je m'en fous de leur loi. Enfin, c'est pas que je m'en fous de leur loi, c'est que je vais pas demander les papiers aux gens de savoir s'ils ont leurs papiers, ils ont pas leurs papiers. Si la loi, elle, c'est ça, ben, il faut changer les lois, puis c'est tout, quoi.
Allez, c'était Régor, chaque semaine, sur Nicolas Garrigue à Montpellier, Canastule, à Toulouse, donc bien évidemment Radio Primitive, cette émission réalisée. Vous pouvez retrouver nos émissions sur le site oclibertaire.l'autre.net et sur le blog Le Chat Noir 51.